Dimanche de la miséricorde de Dieu. En français, en Espagne, en espagnol, en italien, en latin, le mot est biaisé parce qu'on parle de la misère et du cœur de Dieu, miséricorde. Mais il y a toujours de la misère. On a du mal à imaginer que dans le mystère de Dieu, le mystère éternel de Dieu, il y a toujours de la miséricorde, même s'il n'y a pas la misère. Parce que en hébreu, miséricorde, c'est tendresse de Dieu, c'est tendresse, c'est les vibrations du sein maternel de Dieu. C'est l'expérience de la beauté du cœur de Dieu. Il n'y a pas besoin de misère pour ça. Même en polonais, miło serce, même en allemand, barmherzigkeit, il n'y a pas besoin de misère. Je ne sais pas pourquoi les latins se sont fixés là-dessus. Donc chaque fois qu'on parle de miséricorde, je voyais l'article là, hier, d'un périodique, d'un quotidien catholique. Moi, je me suis dit, si c'est ça la miséricorde, je me flingue. Bon, j'en dis pas plus, excusez-moi de cette expression, mais ça vient du cœur. Hein. Non, je me suis dit, non, si c'est ça, non, les latins, non, le latin, c'est un détournement de fond de la miséricorde, vraiment. Alors, parlons de l'expérience. En hébreu, le mot rachamim vient des entrailles de Dieu. C'est l'amour viscéral. Et c'est le même mot pratiquement que ruach, esprit, dans la langue de Jésus. En araméen, l'esprit, c'est... il est féminin. L'esprit est féminin. Vous voyez, le latin dit spiritus, c'est masculin. Le latin masculinise tout. C'est affreux, affreux. Bon. Le grec fait pas beaucoup mieux, hein. Το πνεύμα, c'est du neutre, c'est neutre. Ça se perd. Non, dans la langue de Jésus, la miséricorde est féminine et c'est l'esprit de l'amour, des viscères, de l'amour viscéral de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors c'est quoi la miséricorde dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament? C'est faire l'expérience que l'amour de Dieu nous traverse aujourd'hui, qu'aujourd'hui je suis aimé par Dieu inconditionnellement. Et récemment, une catéchumène me disait, quelquefois je veux prier et je suis bloqué, j'arrive plus. Alors je lui disais, mais c'est normal, c'est ce que dit saint Paul. Il dit que il y a des moments où, oui, nous ne trouvons plus les mots pour prier. J'espère que ça vous arrive à tous. Il y a des moments où on voudrait prier et on connaît des mots, hein, et on essaye de les utiliser et puis ça ne nous vient pas. On a l'impression de ne pas avoir envie de prier. Mais détrompez-vous, les mots ne sont pas nécessaires. Mais si on fait vraiment cette expérience où on se décante, où on se dit « Oh, je ne sais pas prier, ça c'est vrai. » Mais j'essaye de me mettre en écoute des gémissements qui me traversent, des gémissements inexprimables de l'esprit, de la prière de l'esprit. Je me laisse traverser par cela. Je ne trouverai pas de mots, mais je serai porté par une relation du Fils et du Père, une relation bizarre, une relation éternelle qui me montrera, me dira, laisse-toi porter par cet esprit, les gémissements inénarrables. Ne cherche pas de mots. Tourne-toi vers le mystère de Dieu. Laisse-toi porter. Et là, je fais l'expérience que la prière ne m'appartient pas. Que la prière, c'est simplement se laisser porter. Et j'arrive avec des intentions, comme nous, même à la prière universelle. Et en fait, même mes intentions sont transformées, dit saint Paul, chapitre 8 des Romains, par les intentions, l'intention de l'esprit. Je découvre que, alors que je priais pour une intention par la lorgnette d'une petite fenêtre, je découvre qu'il y a des portails énormes. Et l'esprit me fait découvrir que il y a un bien énorme, immense, que je ne voyais pas, et qu'il veut m'apporter simplement en me laissant porter par le Ruach, l'Esprit de Dieu, la miséricorde féminine de Dieu, qui me porte et qui m'ouvre à son amour inconditionnel, et qui me dit, mais est-ce que tu es conscient que tu es aimé par lui inconditionnellement ? Ah non, ah ben non Seigneur, je vais être honnête avec toi, non. Parce que j'étais un peu comme les disciples dans le cénacle, porte verrouillée. Et je pensais même que dans ce cénacle, la porte verrouillée, je ne pourrais pas être rejoint par l'esprit de la miséricorde. C'est bien l'expérience que fait Thomas. Thomas dit, mais ce n'est pas possible. Puis les portes sont fermées. Les gars, vous avez rêvé, c'était un fantôme que vous avez vu. C'est pas possible que Jésus puisse venir à vous. Mais il est mort. Il n'est pas vivant. Puis les portes sont verrouillées. C'est un fantôme que vous avez vu. Soyez réaliste. Si je ne touche pas, si je ne vois pas, j'y croirai pas. Hein. Les disciples sont enfermés dans leur cénacle. Portes fermées. Portes fermées. Quelle église! Une église qui, selon la première lecture, est appelée à créer du lien avec tous, à intégrer même les exclus, à inclure dans la relation de l'esprit toute l'humanité. Une église qui s'enferme, une église qui a peur, une église qui se verrouille. Remarquez, on les comprend, hein ? Vous avez peur ? Et Thomas qui dit, non, non, mais c'est pas possible, les portes étaient verrouillées, c'est pas possible. Puis moi aussi, j'ai peur. Et Saint Jean nous dit, mais dans ce cénacle, la porte verrouillée, Jésus vient. Et il vient. Et il se manifeste par le lien de la paix. La paix soit avec vous. Il leur fait expérimenter cette expérience des gémissements inénarrables de l'esprit. Vous êtes aimé de Dieu, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et Thomas se laisse toucher, se laisse rejoindre par ce lien de la paix, ce lien de l'esprit. Et Jésus va plus loin, il leur dit, puisque maintenant vous faites l'expérience de l'esprit de la miséricorde, l'esprit de la miséricorde féminine de Dieu qui vous traverse, n'ayez plus peur. Sortez de vos cénacles, allez apporter l'esprit de la réconciliation. Vous pardonnerez les péchés, vous inclurez les exclus, vous les ferez entrer dans ce mystère de communion, de miséricorde que vous ferez expérimenter à la terre entière. Et là, Thomas dit, j'ai été complètement renversé par cette expérience. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors la miséricorde, nous dit l'oraison, nous rejoint par le baptême. L'eau du baptême, Jésus vient par l'eau. Et elle était riquiqui ce matin, cette eau, hein, faut reconnaître. Hein. Mais vous savez, les budgets de l'Église aujourd'hui, même pour l'eau, c'est compliqué. L'eau était riquiqui, mais nous pouvons faire l'expérience de l'Esprit, qui est gratuite. Et nous pouvons en faire l'expérience à toute l'humanité, cet esprit de l'amour de Dieu inconditionnel. Mais l'oraison nous dit, n'oubliez pas le sang. Ah bon ? Ben oui, l'aspersion du sang. Ah bon ? Ben oui. L'alliance, Moïse, sur le Sinaï, vous vous rappelez ? Moïse qui égorge des animaux, qui prend le sang dans un seau, qui passe dans l'assemblée avec un balai polonais et qui asperge l'assemblée pour dire « Vous êtes dans le sang de Dieu, vous êtes dans le sang de l'Alliance. » Vous vous rendez compte si j'étais passé avec un balai polonais, avec du sang humain ce matin pour vous asperger ? Vous auriez eu peur. Et pourtant, c'est ce que fait Jésus pendant l'Eucharistie. Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle dans mon amour. Le sang versé, le sang dont vous êtes aspergé, le sang de l'amour. Je ne pourrai jamais vous oublier. Une mère a beaucoup de mal à oublier l'enfant qu'elle a porté dans son sein. Mais moi, pour moi, c'est impossible. Je ne suis pas tout-puissant. Je suis tout-puissant dans l'amour et dans la miséricorde. Je ne pourrai jamais vous oublier. Vous faites partie, je vous ai dans la peau. Je vous ai dans mon sang. Je ne peux pas ne pas vous aimer. C'est ça. Mais regardez cette démarche de la miséricorde, comme dit l'oraison. Elle dit par l'eau, l'esprit qui vous rejoint, le sang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire après 8 jours de Pâques, hein, que la miséricorde nous rejoint par le sang ? Il a fallu que Jésus accepte d'être exclu pour inclure. Pour inclure cette église fermée, verrouillée, une église qui a peur, une église de pur qui s'enferme, hein, pour ouvrir et inclure toute l'humanité dans la miséricorde, Jésus a dû accepter d'être exclu par les chefs de sa religion. Accepter d'être exclu pour inclure dans la relation de miséricorde. Il est exclu même de la vie sur la croix. Il est exclu. Et son dernier geste, c'est cette eau du baptême, de son cœur, de ses entrailles, de ses viscères d'amour. C'est l'eau du baptême, c'est le sang de l'exclusion. Exclusion. Être mis à mort par ses propres co-religionnaires. Être mis à mort. Mais pour pouvoir inclure les exclus. C'est ça, le mystère de la miséricorde. Mais c'est pas facile, hein, d'assumer d'être exclu de sa propre religion, d'être excommunié, d'être exclu de la vie, mis à mort, pour pouvoir inclure les autres. Ça, je pense qu'on a besoin de plus de 8 jours. On a besoin d'une vie pour que le baptême nous atteigne, la miséricorde nous atteigne, et pour que nous acceptions d'entrer dans le jeu de la miséricorde, qui un jour ou l'autre nous appelle, nous aussi, à accepter l'exclusion, pour inclure ceux qui sont exclus. Je pense à des gens qui, dans la vie de l'Église, ont vécu cela en première personne. Accepter le jeu de l'amour qui va jusque-là. Oui, ma vie sera donnée en offrande pour que les autres puissent faire partie de ce mystère de la miséricorde dont l'Église est chargée. L'Église n'est pas chargée de verrouiller, ni de fermer, ni d'exclure. L'Église a pour mission d'inclure dans la miséricorde.